Bonjour, ici Hugo Prévost. Bienvenue à une série d'épisodes spéciaux de Pixels et Préjugés intitulée « Dans les coulisses de Gameloft ». Je vous propose de découvrir le travail d'employés de cette compagnie qui a récemment amorcé son virage vers les jeux sur PC et console. Ces épisodes sont commandités par Gameloft. Bonne écoute! Antoine Pelletier, bonjour.
Bonjour Hugo, ça va?
Ça va bien toi?
Pas trop mal.
Oui, bien écoute, bienvenue à cet épisode spécial de Pixels et Préjugés.
Ben merci, ça me fait plaisir d'être là.
Donc tu es le World Audio Manager chez Gameloft, tu travailles à partir des studios de Montréal. World Audio Manager, ça a l'air d'un titre extraordinaire sur une carte d'affaires, mais je veux que tu nous expliques qu'est-ce que ça fait exactement.
C'est pas si glamoureux que ça. Non, mais c'est-à-dire que bon, Gameloft, bon, c'est pour les gens qui connaissent pas, on est une compagnie qui a 14 studios diffusés partout dans le monde, qui développent toutes sortes de jeux différents. Et le studio, le département son ici à Montréal, et se charge de livrer tout le son pour tous ces projets et pour tout le marketing. Donc, c'est-à-dire que voilà, nous, on est basé physiquement ici à Montréal, on est une équipe de 28. Mais on ne fait pas que les jeux pour le studio de Gameloft Montréal, on fait le son pour tous les projets qui sortent de Gameloft Monde. Donc tu peux imaginer que c'est un travail assez colossal pour une équipe qui est relativement petite vis-à-vis de la charge de travail, de s'occuper de tout ça et qui a beaucoup de challenges, notamment voilà, tous ces studios qui existent pour Gameloft, ils ont été acquéris à des moments différents et Gameloft les permet plus ou moins de fonctionner comme ils veulent. Donc il y a des philosophies différentes, des cultures différentes, des langages différents. Bien sûr, il y a des zones horaires différentes et plein de challenges spécifiques qui existent dans chaque studio auxquels nous, on doit s'adapter et essayer de trouver et de streamliner un peu notre flot de travail pour livrer tout ça.
Et quand on parle de son, on parle, bon, j'imagine, bruitage, mais c'est aussi les bandes sonores, là, c'est la musique aussi.
Oui, et puis c'est les dialogues aussi.
Oui.
Et puis c'est le mix. Le mix est un élément non négligeable du son, c'est-à-dire que c'est un peu la recette. On peut avoir tous les assets, on peut avoir tous les fichiers de son qu'on veut, mais si les choses ne sont pas équilibrées et dosées correctement, ça sonne mal. Donc voilà, pour revenir un peu à la question initiale, moi mon rôle c'est donc de gérer ce département, de faire en sorte qu'on a les ressources humaines, le hardware, le software, les librairies de son, etc., tous les moyens nécessaires pour livrer ces jeux.
Et donc, on l'a déjà mentionné dans d'autres épisodes, évidemment, spéciaux sur Gameloft, il y a eu le changement. On est passé d'un développeur qui était surtout sur jeu mobile vers un développeur qui va maintenant être d'abord PC, console. Toi, dans ce contexte-là, qu'est-ce que ça a changé dans ton travail?
Ben moi, c'est assez intéressant parce que je viens d'un background de AAA. Moi, ça fait presque 24 ans que je suis dans le son pour les jeux. J'ai commencé comme testeur chez EA Sports en 1999. Ensuite, je suis devenu designer de VO et de dialogue, et je suis devenu directeur audio. Ensuite, je suis passé chez THQ où j'ai fait la même chose pour 6 ans. Et plus récemment, j'étais en Angleterre dans une boîte qui s'appelle Splash Damage où on a fait un jeu de Gears Tactics où j'étais producteur senior d'audio aussi. Et je suis venu à Montréal en pleine pandémie en novembre 2020. Donc, lorsque je suis arrivé ici, l'équipe était toujours, si tu veux, structurée pour livrer des jeux mobiles. C'est un peu ça, le pain et le beurre de Gameloft jusqu'à récemment, de sortir presque uniquement des jeux mobiles. Donc, les besoins d'un jeu mobile sont très différents que des jeux console ou PC. Tout simplement parce que le hardware sur lequel on écoute, qu'on joue et qu'on regarde le jeu est complètement différent. Et c'est beaucoup plus simple sur un téléphone. Voilà, pour le son, c'est soit mono ou soit des téléphones mobiles en stéréo. Et une fois qu'on arrive sur console, ça passe du stéréo au 5.1 et même jusqu'au Dolby Atmos qui peut aller du 7.2.4. Donc, voilà, l'analogie un petit peu, c'est genre on passe d'un timbre à un écran 4K. Je veux dire, on peut pas prendre la même structure et les mêmes ressources et espérer augmenter les choses et les rendre beaucoup plus complexes et augmenter les valeurs de production de manière considérable sans changer le fond. Donc pour nous le problème, enfin, les challenges, je ne dirais pas que c'est un problème, mais plutôt les challenges principaux qu'on avait, c'était que les jeux sur console et PC sont beaucoup plus techniques. En, oui. passant de jeux mobiles à des jeux console, on était obligé de changer souvent, dans le cadre de nos jeux, le moteur. On utilisait des moteurs internes à GameLove, développés à l'interne, ainsi que du middleware audio développé à l'interne. Et ils étaient tout simplement pas, je sais pas comment on dit en français, mais fit for purpose. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas conçus pour tel. Ils n'étaient pas conçus pour être cross-platform. Donc, pour un exemple, si on prend Disney Dreamlight Valley, on est passé sur Unity et on est aussi passé sur Wise. Donc, c'est un middleware très performant pour le son qui est vraiment conçu à la base pour le cross-platform. Donc, déjà, il y avait ce changement. Il fallait qu'on change nos engines, nos moteurs de jeu et notre middleware audio. Et qu'on liaise les deux ensemble. Et donc, nous, ce département son qu'on a ici, il y a énormément de compositeurs, de concepteurs son, des designers de dialogue, des assistants, des producteurs, des directeurs, etc. Mais on n'avait pas une branche vraiment technique. Et ça, c'est une branche qu'on appelle le Technical Audio Design. Et on utilise l'acronyme TAD ici pour ça. Et donc, on a embauché un très bon technical audio designer qui nous a permis de vraiment structurer nos jeux proprement dans Wise, de créer des systèmes dans Wise et aussi de structurer et de concevoir nos assets d'une certaine façon à ce qu'ils puissent performer sur des jeux sur console et PC. Et aussi, cette personne permet de communiquer proprement avec l'équipe de programmation. Donc, quelque part, le technical audio designer, il fait le pont entre les concepteurs son et les programmeurs sont, pour faire en sorte que les systèmes qui sont créés dans le middleware sont compatibles avec les systèmes qui sont créés dans le moteur. Voilà, pour dire ça assez le plus simplement possible. Donc ça, c'était vraiment, je pense, que le upgrade le plus considérable qu'on a commencé avec. Et ça, ça a énormément changé les choses.
Et tu as mentionné les programmations, et clairement, bon, un jeu sur PC, console, généralement, on va jouer à ça en écoutant le son, ou en tout cas la musique du jeu. À quel moment est-ce que dans la conception du jeu, il faut que toi ou quelqu'un de ton équipe arrive en disant ben il faut pas nous oublier ou quelles sont vos demandes? Est-ce qu'il y a un moment précis, tu dis dans le calendrier, il faut la deuxième semaine, il faut qu'on fasse notre meeting ou ça peut varier?
C'est une très bonne question et c'est une bonne question pour plusieurs raisons. La première, c'est que comme nous, on fait pas partie des équipes de dev, de développement, c'est facile pour eux de nous oublier. Maintenant, on ne s'est pas fait exprès. C'est juste que c'est un peu, comme on dit en anglais, out of sight, out of mind. S'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de championner ces choses-là vraiment au sein de l'équipe, on oublie qu'il faut avoir le son. Donc, pour nous, c'est vraiment, c'est presque primordial qu'on fasse partie du processus le plus tôt possible. Donc, Gameloft a un gros passé de prototypage. Et surtout, voilà, comme ils ont une expertise dans les jeux mobiles, souvent, les jeux mobiles, ils obtiennent le feu vert pour développer par rapport à leurs prototypes. Les prototypes, ils vont les lancer sur le marché, sans marketing, etc., pour obtenir des KPI. Et voilà, pour les écouteurs qui ne savent pas, les KPI, c'est des statistiques qui montrent que le jeu colle avec les gens et qu'ils sont intéressés, qu'ils sont engagés avec. Et on n'avance pas dans le processus, enfin, on ne donne pas le feu vert pour le développement final du projet tant que ces KPI ne répondent pas et qui ne nous donnent pas des chiffres qu'on veut. Donc, ce qui est bien avec Gameloft, c'est qu'ils ont une grosse, grosse expertise là-dedans. Donc, nous, on aime bien, et c'est clé pour nous de s'introduire dès le départ, dès la phase de prototypage, parce que c'est toujours pareil. Lorsqu'on construit une maison, il faut bâtir une fondation, et l'audio est partout dans un jeu. C'est-à-dire, dès qu'on allume un jeu, il y a toujours du son. C'est peut-être la chose qui est le plus constant. Bon, à part les visuels, c'est sûr qu'il y a toujours quelque chose à l'écran. Mais à part les graphismes, il n'y a rien de plus constant dans un jeu vidéo et différent partout que l'audio. Dans les menus, il y a du son. Dans le jeu, il y a du son. Dans les crédits, il y a du son. Voilà, il y en a partout. Et dans les cutscenes, etc., dans toutes les cinématiques. Donc, c'est vraiment impératif pour nous de s'introduire dans le processus le plus tôt possible. Maintenant, en même temps, il ne faut pas se lancer à fond dès le départ, parce qu'il y a aussi les chances que le projet soit annulé, parce que si les KPI reviennent, ils ne sont pas bons. Donc, c'est à nous de trouver vraiment ce sort de juste milieu de, oui, il y a des chances que le jeu va aller plus loin, donc on veut architecturer des choses pour qu'il soit capable d'être mené à bout, Mais en même temps, il ne faut pas mettre tous les moyens dessus, parce que si le jeu se fait annuler, ben dans ce cas-là, on perd tout le travail. Donc, voilà, c'est un juste milieu qu'on cherche toujours à optimiser.
Tu as déjà un peu touché à cette question-là, mais j'aimerais revenir sur la question de la complexité. On a mentionné, évidemment, c'est un jeu sur téléphone. On peut généralement fermer le son, puis on peut jouer dans le métro ou chez soi, peu importe. Un jeu PC console, encore une fois, va vouloir profiter de l'expérience sonore, l'expérience musicale, mais concrètement, au-delà du fait de devoir offrir quelque chose de plus, qu'est-ce qui est plus complexe, qu'est-ce qui est plus demandant quand on parle de PC console?
Ben, c'est simple, c'est le format. C'est tout comme si on regarde un clip de YouTube sur notre téléphone mobile dans le métro, ou si on rentre chez nous et on regarde, je ne sais pas moi, le dernier John Wick 4 en 4K ou en 8K chez soi en Dolby Atmos. C'est-à-dire ouais. que c'est le hardware lui-même, le format de présentation est tellement plus immersif et surtout haute définition, que ce soit visuel ou audio, qu'il faut s'adapter à ça. C'est-à-dire qu'il faut livrer quelque chose qui correspond à ce format de déploiement. C'est comme si on a un circuit de Formule 1 et qu'on s'amuse à faire le tour en Corolla. Ça va être beaucoup différent que si on fait le tour dans une voiture de Formule 1. Donc, ouais. Donc pour nous, c'est non seulement ça. C'est-à-dire que voilà, le format lui-même exige une certaine qualité, une certaine complexité. Et surtout, on est face maintenant à nos compétiteurs sur console.
Ouais.
Il y a tous les grands jeux avec des énormes budgets. Et quelque part, le consommateur, il se fiche un peu de comment est-ce qu'on est arrivé là. C'est-à-dire il va acheter un Grand Theft Auto, ou il va acheter un Gran Turismo, ou il va acheter un Forza, et puis après il va acheter un Dreamlight Valley ou un Disney Speedstorm, et peu importe, il va être là, hey, moi j'ai acheté ça et j'ai acheté ça, ça ça tue, et ça c'est moins bon, ou ça c'est moins bon et ça ça tue. C'est-à-dire, donc maintenant on est en compétition avec tous les autres développeurs sur console qui livrent des choses incroyables aussi. Et donc, quelque part, Gameloft est en train de faire cette transition. C'est pas des jeux qui sont censés comparer et aller tête à tête avec ces projets qui ont des budgets énormes.
Oui.
Mais en même temps, on est obligé d'augmenter la complexité et la valeur des productions pour faire en sorte que nos projets et nos produits soient compétitifs.
Et justement, parlant d'augmenter la valeur de la production, tu disais tu gères une équipe de 28 personnes. Est-ce que tu dis dans 6 mois, j'aurai besoin de 35 personnes? Est-ce que tu vois que le département va être amené à grossir?
Oui. C'est intéressant. En 2 ans et demi, on n'a pas nécessairement vraiment grossi notre équipe. On est resté plus ou moins, je veux dire, d'après ce que j'ai appris. Voilà, dans les 5 ou 6 dernières années, je crois que cette équipe a monté jusqu'à 34, 35 personnes. En ce moment, on est à 28. On a aussi monté une autre équipe en Asie du Sud-Est pour nous aider avec d'autres choses aussi. Donc maintenant, en fait, on se trouve vers 34. Donc historiquement, on n'est pas plus, mais j'avais commencé à parler du début qu'on a créé une branche technique dans la boîte. Ouais. Ce qu'on a rajouté aussi, c'est une branche de production. Parce que par rapport à ta question précédente, là, quels sont les challenges un peu de les raisons pour la complexité et l'augmentation des valeurs de production? Il faut se donner des moyens de le faire. Et ce qui manquait vraiment dans ce département avant, c'était une équipe qui gérait les projets, qui gérait l'équipe. Et lorsque les projets deviennent énormes, comme genre Speedstorm ou Dreamlight Valley, où vraiment il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces jeux, beaucoup d'environnements, beaucoup de moving parts, comme on dit, énormément de musique, de VO, d'effets sonores, d'ambiance, un travail de mix. Il faut vraiment organiser tout cela. Et je pense que sans rajouter plus d'artistes, en rajoutant des techniciens et de la production, c'est vraiment ces endroits-là où on avait besoin des gains. Il fallait qu'on optimise nos ressources. Et donc, pareil, on a embauché un très bon producteur qui a commencé à mettre en place des pipelines de production, de workflow, comme on dit. Et ça nous a vraiment permis d'optimiser nos ressources d'un point de vue artiste. Et surtout, ce qui est bien avec ça, c'est que c'est très bon pour le moral des artistes de faire cela. Parce que souvent, s'il n'y a pas des managers ou des project managers, on laisse ça un peu aux artistes de se débrouiller, ouais. d'aller chercher des informations dont ils ont besoin pour faire le son, ou de savoir quand est-ce qu'ils vont faire quoi. Et c'est vraiment pas leur job. Et donc, lorsqu'on demande à des gens de faire quelque chose qui ne leur plaît pas et dont ils ne sont pas compétents, ben, tu peux imaginer que les résultats sont mauvais et en plus, ils vont être en train de compromettre leur travail principal, qui est celui d'un artiste ou d'un technicien.
Antoine Pelletier, World Audio Manager chez Gameloft, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Ben, avec grand plaisir. À bientôt.
À bientôt. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de la série « Dans les coulisses de Gameloft ». Au plaisir de vous retrouver prochainement pour de nouvelles rencontres. À bientôt.